Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez
Martineau.
Cube Radio.
Est-ce que les personnages devraient survivre à la mort de leur auteur? C'est une sacrée belle question d'éthique et de morale. On devait avoir un nouvel album de Gaston Lagaffe. Vous savez, Franquin, le père de Gaston Lagaffe, est décédé en 1997. Et sa fille, là, il y a un autre dessinateur qui devait faire un album de Gaston Lagaffe qui était censé sortir. Et sa fille a dit non, là. Mon père, il était clair, il voulait que le personnage meure avec lui puis que personne puisse continuer à faire des albums de Gaston Lagaffe. Et les éditeurs Dupuis disent, ben non, c'est parce que nous autres, on a les droits de Gaston Lagaffe. Fait que nous autres, on a le droit de donner ça à qui on veut pour que continuer le personnage. On va en parler avec Pierre Huet. Là, si je dis tout ce qu'il fait, ça va prendre 15 minutes. Là. Auteur, parolier, dramaturge, humoriste, raconteur extraordinaire, etc. Et très, très grand amateur de BD. Pierre Huet, bonjour.
Bonjour. Et ami Franquin.
Et ami de Franquin, ouais. Il était comment, Franquin?
Il était absolument adorable, absolument adorable. Écoute, un jour, je l'ai même amené voir un spectacle de Beau-Dommage.
C'est vrai.
Ah, oui.
Et mais... qui était belge, bien sûr, comme bien sûr. Plusieurs de ces gens-là. Écoute, moi, je suis un grand, grand fan de Lucky Luke et d'Astérix. Et je dois le dire, quand Uderzo, Goscinny, Maurice sont morts, puis tout ça, après ça, on a donné ça à d'autres personnes. C'est pas... la même affaire. C'est pas la même affaire. Ouais. Les Lucky Luke est devenu complètement politiquement correct. Ouais, je reconnais pas mon Lucky Luke. Même Astérix, il manque la subtilité de Goscinny. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, j'en pense d'une part. Ben, prends le cas d'Astérix. Fait longtemps que Goscinny est mort et Uderzo a continué à le faire. D'abord seul. Ensuite, avec d'autres scénaristes. Tu peux dire, s'il y a quelqu'un qui a bien le droit, c'est le dessinateur. Il a créé le personnage. T'sais. Et des fois, quand le trait est encore le même, quand le dessinateur est encore le même, c'est pas si mal. Mais effectivement, le célèbre « je ne sais quoi », à quoi ça tient.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Dans le cas, mais là, au moins dans le cas de Franquin, moi, il était parfois aidé par Greg, du monde comme ça, mais c'était lui, l'auteur-compositeur. Il dessinait et écrivait les textes de Gaston. T'sais. Alors, mais tu sais que c'est un Québécois qui reprenait le Gaston. L'album qui est arrêté, c'est celui qui dessine ici les nombris. Le trait est remarquable. Puis de fait, faire, tu sais, parce que Franquin, ce qu'on appelle l'école belge, et que certains appellent l'école des gros nez, c'est-à-dire, pense aux schtroumpfs, des choses comme ça, les gros nez belges. Donc, il existe beaucoup de dessinateurs, il y a eu des albums parodiques, en fait, des albums hommages à Gaston Lagaffe, où il y avait des très, très bons dessinateurs, mais moi, je préfère quand tu reconnais le nouveauté. Autrement dit, j'aime autant qu'un dessinateur qui reprend le mette à sa plume. Prend justement, bon, Franquin a fait Spirou et Fantasio longtemps, et il était le troisième dessinateur à le faire. T'sais. Et il y a eu d'autres depuis, et il y a des gens comme Tom et Jean-Ry qui ont repris Spirou et Fantasio, qui ont donné leur trait à eux autres. Alors, quand tu dis c'est pas pareil, dans leur cas, c'est peut-être une qualité. Dans le sens que de pas essayer de faire comme s'il était, alors il l'amène ailleurs.
C'est ça, parce que le gars est pas là. Fait que essayer de faire comme, c'est niaiseux, c'est sûr que tu vas te tromper. Fait que t'es mieux de l'amener totalement ailleurs.
Ce qui est étonnant dans l'affaire qui se passe en ce moment, c'est que, bon, Franquin a, pour l'essentiel, il a créé quatre choses majeures. Il a créé Gaston Lagaffe, il a créé le Marsupilami, et des aventures de Spirou, il a le comte de Champignac, et Zorglub le méchant. T'sais? Et quand il a quitté Spirou, il a interdit que le Marsupilami continue dedans. Autrement dit, les aventures postérieures à Franquin de Spirou, il n'y avait pas de Marsupilami. Or, il a continué à dessiner le Marsupilami, et éventuellement, il a créé les éditions Marsu, avec des hommes d'affaires, et... ça a continué, autrement dit, d'autres ont dessiné le Marsupilami, et là, c'était clair que il y avait l'accord de Franquin, de son vivant.
Avec son accord, c'est ça l'affaire, c'est que là, il avait dit non, je ne veux pas, sauf que l'affaire, c'est, il avait-tu les droits ou il avait perdu les droits, puis ils avaient cédé à son éditeur,
ce qui est étonnant, c'est que ceux qui prétendent avoir, ceux qui prétendent pouvoir dire à Dupuis, hey, allez-y, ce sont les éditions Marsu, ceux qui ont obtenu de Franquin de faire le Marsupilami. Alors, où est-ce qu'il y a le flux artistique? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que, il me semble que les avocats de toutes les parties devraient un petit peu avant téléphoner. Je veux dire, mettons, sa fille et son héritière unique, il me semble que c'est la politesse élémentaire de vérifier que tout va bien que ça.
Écoute, moi, je pense l'une des plus belles, d'ailleurs, j'ai l'œuvre complète chez moi, une des plus belles bandes dessinées qui existent, c'est Corto Maltese, Hugo Pratt, qui était un de tes amis.
Aussi, oui. Ouais.
Qui est un ami personnel, t'es connais toutes. mais tu sais, c'est
de l'art. Mais meurent toutes.
C'est du grand art, ouais. Là. Et que Hugo Pratt, que Arthur Martinez a pu survivre à la mort du gros Pratt, ça fait mal, ça.
Ouais, c'est vrai, mais c'est drôle, là, des fois, et je ne dis pas que c'est le cas d'Hugo Pratt, parfois, les gens connaissent plus le personnage que le dessinateur. Il y a des gens qui en ont rien à cirer. Mettons, si tu dirais à quelqu'un, eh bien, un enfant de 10 ans qui lit des schrumpfs, il s'en fout que ce soit signé par Peyot ou un successeur, tu sais. Et, mais ça, bon, évidemment, le cas unique et total, enfin, il y a les deux cas majeurs, c'est évidemment, Hergé avec Tintin et Schulz avec Peanuts. Que les deux ont jamais été ça, c'était clair et net. Jamais ne seront repris.
Mais t'imagines les gens chialeraient en tabarnouche, quelqu'un aurait le culot de faire un Tintin.
Mais tu parles. Mais ce qui est, on sait que RG, c'était un studio. Autrement dit, on sait que les automobiles, les backgrounds, les personnages secondaires étaient dessinés par des gens autour de lui.
C'était une usine.
C'est ça. Et qui avait ce qu'on appelle le célèbre trait de RG. Mais là, c'est clair et net. Dieu sait pourquoi. Tant que c'est surtout le mari de sa veuve qui est à veille de sortir. En fait, je sais pas qu'est-ce qui a pas sorti comme produit dérivé. Mais il y aura toujours seulement 24 albums de Tintin.
Mais tu sais, quand il pense, James Bond a survécu à la mort de Ian Fleming.
Et puis il a survécu au changement de personnage, au changement de comédien.
Ben oui.
C'est le branding que les gens aiment, tu sais. Alors, dans ce cas-là, dans le cas de Gaston, parce que, comment il s'appelle, Delaf, je sais pas quoi, le dessinateur québécois qui fait ça, le trait est remarquable. Tout ça a commencé quand il y a eu justement un album hommage à Gaston, où 10, 15, 20 dessinateurs ont fait une page de Gaston, et lui, c'est clair, le dessin que tu as devant toi, c'est un trait par Delaf, et c'est remarquable de ressemblance. Mais, écoute, on juge, il y a une page qui est parue. T'sais, on jugera pas de la fidélité au personnage d'après une page.
Je fais une parenthèse, puis je parle de musique avec toi. Les Doors ont continué après la mort de Jim Morrison.
Ouais.
Tu sais, tu dis, ah non, s'il te plaît, Jim Morrison est mort, c'est fini les Doors. Puis tu sais ce qu'ils ont fait comme tune quand il était plus là, ils ont fait le moustique de Joe Dassin. C'est ça qu'ils ont fait. Imagine-toi, toi, Beau Dommage.
Par exemple.
Michel Rivard. J'espère que non, j'espère qu'il va vivre très vieux, mais mettons, Michel Rivard passe l'arme à gauche et Beau Dommage veut continuer avec un autre chanteur. Ben non.
T'as raison, cela dit, prends le cas de Beau Dommage. Effectivement, Robert Léger, le claviériste et auteur de beaucoup de chansons, après le deuxième album, voulait plus faire retourner. C'est Michel Hinton qui l'a remplacé, mais c'est sûr que la voix, ça y est pour beaucoup. C'est certain. Par exemple, les Beatles, c'était à peu près impensable qu'on continue sans John Lennon.
Les Rolling Stones, ils ont perdu leur batteur.
Ouais.
Ils peuvent continuer avec un autre batteur, mais tu vois pas les Stones sans Mick Jagger ou Keith Richards.
Non.
Ça n'a pas de bon sens.
Et de fait,
à un moment donné, il faut apprendre que c'est fini. Là.
C'est sûr. Et c'est pas comme si... Bon, à mon avis, c'est que les éditions Dupuis, ils en ont vendu beaucoup d'albums de Gaston. Mais tu sais, est-ce que... L'embêtement, c'est qu'un nouvel album, comme en musique, rafraîchit le catalogue, comme on dit. Alors, si cet album-là sort, ben, ça va faire revendre des albums de Franquin. Alors, je ne sais pas si...
Finalement, tu dirais... Ça pourrait peut-être être bon même pour la mémoire de Franquin.
Et pour celle qui possède...
La garder en vie.
Celle qui l'ayant droit, autrement dit. Hein? C'est Liane qui s'appelle, je pense, sa fille, je me souviens plus. Donc, c'est certain que ça ferait revendre. Imagine que tu sors une anthologie, comme tu vois celle d'Hugo Pratt, tu sors les, mettons que 14 albums de Gaston Lagaffe, puis tu t'apprends qu'il y a un truc qui en contient 15. Mais tu vas l'acheter pour avoir le nouveau, peut-être, tu sais.
Ben oui.
Et ça fait... C'est sûr qu'il faut pas jouer les faux culs. Ça aide, j'ai eu le terme, mais ça aide le catalogue.
T'es pas un puriste, toi, Franquin est mort, faut plus toucher à ça.
Je suis surtout un puriste de respecter la pensée. C'est si le gars dit clairement non, on reprend pas le personnage, ça s'arrête là. T'essayes pas de contourner, t'essayes pas de trouver des manières de dire, on a retrouvé des vieux mauvais dessins de lui, parce que ça arrive aussi. T'sais, des fois, quand quelqu'un meurt, je pense à Cabretéché morte, le Nouvel Op s'est sorti 10-15 planches d'elle, inédites, puis, tu voyais un petit peu pourquoi elles étaient inédites. parce qu'elles avaient dû être refusées par le Nouvel Observateur. T'sais. Ça, c'est moins le fun.
T'sais, mais quand... ça arrive souvent. Un écrivain meurt, puis on sort ses manuscrits qu'il avait dans son tiroir, que lui avait décidé de son vivant de ne pas publier. Puis tu sors. Mais en même temps, comme lecteur, il faut que tu sois indulgent en disant...
Ben, et même chose en musique. Tu sais comment, quand on a sorti les trois anthologies des Beatles, il n'y a pas grand-chose qu'on a rajouté là-dessus que tu dis « Hey, wow, je suis-tu content
c'est
d'avoir ça? »
La fameuse tune, c'est quoi, Blackbird? Ou quelque chose comme ça, je me souviens
quoi,
plus.
Quoi, Free as a Bird?
Free as a Bird.
Ben, ça, c'est ouais, pas... Ouais, ouais, c'est pas, il n'y a pas de quoi changer de bord de trottoir, tu sais. Mais effectivement, si le groupe à l'origine n'avait pas retenu telle tune pour un album, il y a peut-être des raisons.
Et exactement.
Alors donc, mais c'est rare que les inédits nous font bondir de joie.
Toi, t'as eu beaucoup d'amis chez les BDistes. Ouais. T'étais très chum avec Lambert Téché. Mm-hmm. T'étais très chum avec Hugo Pratt. Ouais. Je suis jaloux comme tout. T'étais chum avec Franquin, avec plein d'autres. Mm. Qu'est-ce que t'aimes chez ces gens-là, chez les BDistes?
Ben, écoute, c'est parce que je te dirais, prends-le en envers. C'est que j'ai grandi en lisant ces dessinateurs-là. Et un jour, à cause d'un festival de bande dessinée que j'ai un jour créé, j'ai eu la chance d'y connaître et de devenir ami avec eux autres. C'est ça qui est génial, tu comprends-tu? Je m'en pinçais moi-même, ben tu comprends? Oui. Mais de fait, je sortirais pas les clichés de dire, mais ce sont des gens très simples. Mais de fait, même Claire Bretéché, qui semblait très hautaine, était absolument adorable dans la vie, tu sais. Hautaine le reste du temps, mais... donc, c'est ça. Alors, effectivement, j'ai eu l'énorme chance, privilège de connaître ces gens-là, puis d'avoir quelques dessins chez nous. Hein.
C'est ça. Oui, ils t'ont donné des planches inédites.
C'est extraordinaire.
Des objets de collection.
C'est
là.
Extraordinaire parce que pour eux, une fois que les films ont été faits, le film étant comme une photo de la planche, la planche originale, ils tiennent pas beaucoup. J'ai des trucs ahurissants de Tardy ou des choses comme ça, là, que t'en pleurerais, tu sais, parce que te donner une planche comme ça, ça y est. Il n'y en a rien
à Paris, l'été dernier, je suis allé voir une exposition de Goscinny. C'était extraordinaire. Ah oui, hein? Une grosse expo. Là. Puis tu te dis, ce gars-là, c'est un artiste.
Tu parles. Parce que souvent, les bons scénaristes crayonnent pour leur dessinateur. Alors, c'est bien fun de voir ce qu'ils ont fait à l'origine. T'sais.
Ah oui, tout à fait. Ben merci beaucoup. Écoute, on pourrait se parler pendant une heure avec toi. Merci, c'est toujours extrêmement intéressant. Et puis, on va se reparler de Symphorien. avec Louis Saya, ton ami, vous avez décidé de remonter Symphorien. Rien ouais. Sur scène. Ouais. C'est un flash de soir de brosse? Ou,
ben, en fait, on va pas s'attribuer mérite qu'on n'a pas. C'est le producteur Martin Leclerc qui m'a contacté en s'attendant de faire ça. Louis et moi, on est complices depuis le collège. J'ai demandé à Louis de m'aider pour ça. Et je pense qu'on est plutôt content du résultat.
Wow! Après ça, ça va être quoi? Moi et l'autre?
Ah, quelle bonne idée.
Salut Pierre, porte-toi bien, merci.